Tout d'abord, vraiment très important, ce que je dis, aucune généralité à faire. C'est vraiment que des rencontres personnelles. Donc voilà, faut surtout pas qu'on croie que ce qu'on a vécu, c'est une généralité à faire sur l'islam ou sur l'orthodoxie. Voilà, bien évidemment, c'est à chaque fois des rencontres qui sont en plus très personnelles. Alors du coup, nous, ce qu'on a retenu de l'islam en Turquie, et ce qu'on a, les gens qu'on a rencontrés, un imam, l'imam de Sultanahmet, de la grande mosquée de Sultanahmet, et un couple syrien réfugié. C'est vraiment un rôle très défini dans le couple entre l'homme et la femme. L'homme qui doit vraiment répondre aux besoins matériels de sa femme, donc vraiment de manière financière. Et si la femme a un désir, l'homme doit lui offrir. Voilà, c'est vraiment ce qu'on nous a dit. Et quant à la femme, elle, son rôle est beaucoup plus dans l'éducation des enfants et la tenue de la maison. Voilà, un couple qui se définit déjà par ces rôles-là. Et puis ensuite, on a découvert que c'était pas forcément toujours des mariages d'amour. Un couple a mis l'accent à 100% sur l'amour et pour eux, c'était un mariage d'amour et c'était plus qu'important que l'amour soit central dans leur couple. Et un autre qu'on a rencontré et qui était pourtant très beau et qui semblait s'aimer, mais c'est un mariage arrangé par leur mère parce que ça se fait encore beaucoup dans la religion musulmane. Ça dépend évidemment des pays et des familles et des traditions.
La vision du couple et de la famille dans la religion orthodoxe, c'est aussi une réalité qu'il vous a été donné d'aborder puisque vous avez pu vous rendre également dans plusieurs pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, des pays donc de tradition orthodoxe.
Donc là, c'est surtout pour la Russie. C'était très intéressant. Donc on a rencontré beaucoup, beaucoup de couples orthodoxes avec qui on se sentait quand même assez proches au niveau de la foi. Il y avait cependant quelques différences, notamment une dont on parle beaucoup parce que c'est un peu la grande différence entre nous, c'est le divorce parce qu'eux, ils peuvent se remarier 3 fois. Le divorce est accepté. Donc on en parlait avec des prêtres orthodoxes qui nous disaient que quand même le mariage entre deux époux est entre guillemets pour la vie et enfin est normalement pour la vie. Et le but, c'est vraiment de se promettre fidélité et de s'engager sur toute la durée. Mais ils acceptent l'erreur humaine et du coup, c'est pour ça qu'ils peuvent accepter le remariage entre deux époux. Mais évidemment, ils mettent jamais l'accent sur ça et c'est pas conseillé par l'Église orthodoxe. Et puis après, on a appris tellement de choses que c'est difficile d'en faire un résumé au téléphone. Mais les couples orthodoxes ont une notion très importante du carême qui est beaucoup plus développée que chez nous catholiques. C'est un temps avant Noël, un temps avant Pâques et encore 2 autres temps dans l'année. Et ça a un impact très fort dans leur vie, peut-être plus de famille, mais aussi de couple, car ça veut dire un régime alimentaire assez strict, pas non plus de relations intimes pendant tous ces jours de carême. Du coup, ils sont dans une démarche très spirituelle et qu'on a trouvée très belle, parce qu'évidemment tout ça, c'est pas pour des interdits ou pour dire ça c'est pas bien, ça c'est bien, mais plus pour toujours essayer de se rapprocher de Dieu et voilà, de remettre bien Dieu au centre de sa vie.
Une question peut-être plus générale, est-ce qu'au travers des religions que vous avez rencontrées, bouddhisme, orthodoxie, islam, est-ce que l'institution du mariage reste une chose très importante ou au contraire, est-ce que vous remarquez, comme en Europe de l'Ouest, comme en France par exemple, une certaine désaffection, une certaine indifférence envers le mariage ?
Il y a une chose qu'on peut juste détacher d'abord, c'est le bouddhisme. Le bouddhisme, il n'y a pas vraiment une institution du mariage, il n'y a pas du tout cette importance de la cérémonie ou de l'engagement, juste une notion de fidélité. Donc c'est très très spécial le bouddhisme. Mais sinon, en règle générale, le mariage c'est toujours quelque chose d'important dans les pays qu'on a traversés. Il y a toujours quand même cette notion très importante de l'engagement, du coup du oui et de la fidélité, des enfants. Voilà, il y a toujours cette notion-là. Mais c'est vrai qu'on traverse des pays, je pense, tous en difficulté vis-à-vis de cet engagement. Où énormément de divorces, on en voit beaucoup en Chine, aussi en Russie, on nous l'a beaucoup dit. Donc voilà, il y a toujours, comme en France, je dirais, beaucoup de divorces et beaucoup de ruptures et beaucoup de problèmes au niveau des couples.
Vous êtes ensuite allé en Chine, la Chine où la vision du couple et de la famille est marquée par la politique de l'enfant unique. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous avez été confronté?
Plutôt oui, on a presque appréhendé... pas que ce sujet, mais ça fait vraiment partie du très gros sujet pour le couple, la politique de l'enfant unique. Donc, il faut savoir que cette politique, elle est présente depuis 1976. Donc, en fait, c'est hyper récent dans un sens. Et souvent, les grands-parents qu'on a rencontrés ont 5 frères et sœurs, quoi. Donc, c'est très récent. Et en fait, le communisme et Mao a complètement réussi son job parce que dans les mentalités, c'est presque impensable aujourd'hui d'avoir plus d'un enfant. Même sans penser à la politique de l'enfant unique, à cette loi... Et pour des raisons démographiques, même si on n'en a jamais entendu parler, on n'a entendu que des raisons élitistes pour former un peuple plus éduqué. C'est plus un projet élitiste qu'un projet démographique, de ce qu'on a entendu, évidemment. Et en fait, les couples ont peur désormais d'avoir plus d'un enfant. Ça leur paraît impensable d'éduquer plus d'un enfant. Donc c'est très étrange comme situation. Et on a rencontré des exceptions, des familles catholiques chinoises, dont 2 avaient 3 enfants. Et c'est très, très dur pour elles. Déjà, elles ont dû faire plein de micmacs pouvoir avoir ses trois enfants, parce que sinon l'enfant n'est pas nationalisé. Et une fois que ces enfants sont mis au monde, c'est très dur encore, parce que même dans la rue, on les questionne quotidiennement, mais vous êtes fous, pourquoi vous avez trois enfants? Vous ne pouvez pas éduquer trois enfants, c'est presque pas naturel d'éduquer trois enfants. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui est brisé pour nous dans le peuple chinois à ce niveau-là.